voici. Le journal, demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour,
bonsoir.
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 Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Il est 19h passé de 13 minutes et c'est l'heure du.
Ah bah c'est l'heure, c'est carrément l'heure.
De l'Express Canu Info.
Arrêtez.
Alors, Express passe temps sur l'heure d'arrivée, mais ça va être plutôt. Pas très long, quoi.
Il y aura des brèves.
Ouais, et puis après, on vous parlera quand même de cette histoire d'un squat qui a brûlé à Caluire et il y a une personne qui est morte.
Après, on parlera de quoi d'autre. Moi, j'attendais. Hop, j'ai pas le prix.
En Corée du Sud, le coup d'état présidentiel, on essaiera de comprendre un peu qui, quoi, comment, pourquoi.
Et on va rien comprendre. Et Belgique, les prostituées protégées par un vrai statut.
Et enfin, des nouvelles de la Syrie. Retour en 2014.
C'est moi qui commence.
C'est allez. Toi qui commence.
Une petite brève concernant la Géorgie, 7e nuit d'émeute, pour protester contre le gouvernement qui tente d'empêcher le pays d'intégrer l'Union Européenne. Et surtout, il compte aussi vouloir sacrément se rapprocher de Moscou. Les manifestants font face à une répression féroce. Presque 300 personnes ont été interpellées. Les manifestants et manifestantes rivalisent d'ingéniosité. Laser vert pour aveugler les flics. Réappropriation des techniques de Hong Kong pour éteindre les lacrymos à base de cônes et de bouteilles d'eau. Lacrymos utilisés en masse par la police et attaque d'artifice au feu d'artifice. Plutôt impressionnante. Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous n'avez certainement pas manqué cette vidéo d'un manifestant de Géorgie qui a un
Gatling.
Qui a comme une espèce de sulfateuse un peu d'artifice. C'est assez impressionnant à voir. Voilà, et des cocktails Molotov, bref. Mais quand même, les autorités ont aussi décidé de perquisitionner. Là, ça montre un peu le niveau de tension en dehors des manifs. Mais le parti d'opposition, Droit, où il l'accuse un peu de faire partie un peu de tout ce bordel.
Ah, non seulement perquisitionné, mais ils ont embarqué le chef du parti après l'avoir un peu rudoyé au moment de l'embarquer.
Ah, bah tu vois, j'avais pas eu l'info.
Ah, on rudoie maintenant.
Ah, on rudoie. En Géorgie, là, on rudoie. Eh ben écoutez, moi aussi j'ai des brèves, mais en réalité c'est quand même deux brèves à propos de Macron. Alors finalement ça ressemble autant à des blagues qu'à des brèves, c'est juste que le contenu est bizarrement réel. Donc Macron est allé en Arabie Saoudite voir Mohammed bin Salman pour parler de la création d'un État palestinien. C'est bon, le problème des Palestiniens est résolu, Macron s'en occupe et en plus il le fait avec un grand humaniste qui a le souci sincère des opprimés. C'était la première, ça vous a fait rire. Non, c'est normal. Et la deuxième blague, c'est Macron qui donne son avis hier sur le fait qu'il n'y aura pas de censure du gouvernement Barnier. Alors en fait, la vraie blague, c'est quand même plutôt que les journalistes se penchent sur ses propos, les analysent, se posent la question si c'est crédible, tout ça. Alors que c'est plus à des journalistes de se pencher sur les propos de Macron, c'est à la médecine. Biden, lui, au moins, c'est parce qu'il est très vieux qu'il délire. Macron, c'est juste que son cerveau a été entièrement dévoré par l'autosatisfaction. Ah ouais, c'est fini, maintenant il faut passer aux vraies infos.
Euh, Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble squatté par 80 personnes. Une personne est morte dans l'incendie, deux sont en urgence absolue et deux autres en urgence relative. Il y a un peu plus d'un an que cet endroit sert de refuge à un grand nombre de personnes sans autre solution. Cette occupation a fait suite à l'évacuation du squat l'année dernière situé dans le 7e arrondissement qui était nommé la Pyramide. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les braises encore chaudes, le cirque politique a commencé, un peu comme à chaque fois dans ces événements un peu tragiques. À Caluire, élus et maires de droite, tous avaient prédit la catastrophe, tous avaient alerté sur les dangers d'une telle occupation, tous avaient mis en garde contre les risques électriques, tous avaient voté plein de trucs en conseil de... en conseil municipal, ça y est, pour dire à quel point ils mettaient en garde. Bref, on sait que dans ce genre de choses, la seule chose qu'il leur importe, c'est de dire surtout nous n'y sommes pour rien. Bien sûr que ce n'est pas notre responsabilité. Jamais, 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 ils n'ont mis la moindre solution pérenne sur la table, la moindre solution tout court sur la table. Pour eux, le squat devait fermer non pas par danger, mais pour que Caluire la bourgeoise retrouve sa tranquillité. Et on comprend aussi que leur volonté est de renverser la responsabilité. Celui ou celle qui a un comportement meurtrier serait celui ou celle qui n'a rien et qui cherche une solution. Ils et elles sont convaincus que les gens sont des irresponsables, incapables de mesurer les risques qu'ils prennent quand ils décident éventuellement d'amener un chauffage, certes pas tout à fait correct au niveau des normes, mais en tout cas assez pour se chauffer et éventuellement ne pas mourir de froid dans un bâtiment. Ils connaissent les risques quand ils font ça, ils savent que ça peut déclencher un incendie, par le moment ça le fait, des fois ça le fait pas. Comme d'hab, leur gestion est à vomir, la nuit même un gymnase est ouvert, le lendemain les personnes sont remises à la rue, le lendemain matin. Sur ce, à midi, les gens décident d'organiser un rassemblement de soutien devant la préfecture aujourd'hui pour exiger une solution décente, voire une solution tout court au point où ils en sont. Et là, honnêtement, de mémoire de Lyonnais, je n'ai jamais vu ça. Le rassemblement s'est fait nasser dans la rue du Noir. Vous savez, c'est la toute petite rue face à la préfecture. Avec contrôle d'identité pour sortir, présence de la PAF. Résultat, trois personnes se font interpeller pour défaut de titre. Alors, on rappelle quand même que les gens ont perdu une personne. Quatre de leurs proches sont dans un état critique et n'ont pas pu récupérer leurs affaires. Donc, à savoir, éventuellement, des titres qui pouvaient prouver leur identité. Mais il est aussi éventuellement, et ça la préfecture le sait très bien, des personnes qui n'ont pas de titre dans ce squat. On a donc une préfète qui envoie la cavalerie sur des personnes qui ont perdu un proche, leurs affaires, et se retrouvent à la rue. On en est là aujourd'hui à Lyon.
C'était juste, bah tiens, j'en profite que t'aies un problème de transition. La même opposition donc à la métropole refuse un projet de création d'un centre pour les mineurs non accompagnés à Écully, dans un bâtiment qui avait servi à abriter les réfugiés ukrainiens, où à cette époque-là, ils avaient été accueillis avec joie par la mairie d'Écully. Et là, comme par hasard, d'un seul coup, elle n'est plus d'accord pour accepter la mise en place d'un centre en disant que bah, du coup il faut aller les mettre ailleurs étant pas exactement comme à Caluire, surtout pas chez eux, laissez-les plutôt dans des parcs et voilà.
C'est vraiment cette ambiance là où au final les gens n'ont aucune solution et ils se retrouvent à devoir un peu se débrouiller avec ce qu'ils ont et vraiment avec le truc de la mairie de Caluire là, de renvoyer la responsabilité aux occupants et occupantes, aussi au soutien de dire qu'ils sont criminels, mais jamais à s'imaginer que leur opposition farouche à l'installation même parfois légale d'un foyer, d'un centre d'hébergement ou quoi contribue à ce genre de situation.
Canu Info du mercredi.
Et du coup, on va parler Corée du Sud. Et alors, ça va être un peu le bordel, mais c'est parce que ça a été un peu le bordel à préparer, parce qu'autant vous dire que c'était rebondissement sur rebondissement. Alors, le président sud-coréen a tenté hier de renouer avec la tradition nationale en tentant un petit retour à la dictature militaire. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi la situation en Corée, ou les fans de séries coréennes qui suivent pas du tout du coup. En 1950, alors que commence ce qu'on va appeler plus tard la guerre de Corée, le régime sud-coréen décide de faire exécuter entre 100 000 et 200 000 personnes accusées de sympathie communiste. C'est l'acte de fondation du régime fasciste en Corée du Sud, qui du coup en réalité a jamais vraiment pris fin à strictement parler. Alors, on va dire jamais pris fin, c'est un peu de la mauvaise foi. En 1993, Kim Jong-san est le premier président élu à ne pas être un militaire. Même si bah, il a été élu sur le, l'adoubement, je sais pas comment on peut dire, c'était le président précédent, donc il y en a eu deux hein, avant, enfin si on fait exception d'une période de un an de démocratie entre 1960 et 1961, il y en a eu un avant cette période, puis un autre après cette période, et puis du coup voilà ce qui nous amène à 93 où Kim Il-sung est élu donc sur les conseils, enfin je sais pas, un peu comme quand la maire de Paris dit ça va être lui mon, je sais pas comment on dit, c'est lui mon successeur, bah voilà, du coup il est élu, apparemment en plus élu en partie grâce à des détournements de fonds de son prédécesseur qui servent à financer sa campagne. Autant vous dire que comme fin pour une dictature, déjà que quand on ça se finit par une victoire militaire, on retrouve Papon en 63 préfet de Paris, vous pouvez imaginer que quand ça se termine comme ça, le nettoyage de la dictature n'est pas génial. En tout cas, après ce petit contexte historique, on revient à nos moutons. Donc, Yeol, excusez-moi si je ne le dis pas correctement, a donc été élu en 2002 avec 48% des voix sur un programme populiste. Alors populiste, on est vraiment sur du Trump à la coréenne. Il avait promis de mettre fin au féminisme, le féminisme en général, et notamment, enfin et plus précisément, enfin en tout cas la mesure concrète qu'il avait donnée, c'était de supprimer le ministère du droit des femmes, ou encore de doubler la semaine de travail qui en Corée est déjà de 52 heures et de l'amener du coup à 104 heures. Alors c'est la semaine, alors j'ai bien compris, c'est la semaine maximum. Donc pour vous dire, chez nous c'est 48, mais chez nous c'est 48, pas plus de 3 semaines d'affilée. Chez eux ça a l'air d'être juste 52, et du coup ils voulaient monter ça à 104. Du coup il est élu avec 48% des voix en menant une campagne un peu du coup. Alors j'ai regardé un peu, ça avait l'air d'être vraiment l'ambiance Trump, en mode on insulte les adversaires, on fait du populisme à fond, et voilà. Et pour une raison, peut-être que les Coréens sont moins cons que les Américains, on ne sait pas. En tout cas, sa cote de popularité est assez vite tombée sous les 20%. Alors, si on prend les standards français, 20%, c'est à peu près ce qu'on connaît depuis... bah, même Sarkozy, il n'était pas beaucoup au-dessus, mais...
Ah ouais, ouais. Sarkozy, il est descendu à des moins de 20%.
Ouais, bon voilà, du coup
Hollande,
peut-être
c'est, il est descendu
peut-être il faut remonter à Chirac ou peut-être même à Mitterrand pour être à des taux au-dessus. Mais apparemment, en Corée, ils n'avaient pas trop l'habitude... Du coup, ça faisait quelque temps déjà que ça tanguait. En plus, il s'est retrouvé empêtré dans différentes affaires de corruption, notamment apparemment le patron de Samsung qui avait été accusé de corruption et qui avait été condamné, il l'a gracié. Et là, en tout cas, bah voilà, il se retrouve, c'est un peu le bordel. Et du coup, ça nous amène à hier. Yoon Suk-yeol décrète la loi martiale en début de journée chez eux, pour nous en milieu de matinée, fin de matinée. Et du coup, il va falloir appliquer ce décalage à tout ce que je raconte. Donc, il déclare unilatéralement la loi Marseille à la télévision, accusant le principal parti d'opposition, Parti démocratique de Corée, je crois que ça s'appelle, de collusion avec la Corée du Nord, carrément. Alors, en réalité, il semble surtout avoir voulu échapper à des enquêtes criminelles qui visent notamment lui et sa famille, et parmi les enquêtes, notamment des enquêtes pour corruption, encore une fois. Alors, l'armée a assez vite repris les bonnes habitudes, en se positionnant dans Séoul avec des tanks et compagnie, comme prévoit la loi martiale. La police, elle, s'est aussi assez vite positionnée pour bloquer le Parlement. Mais... assez rapidement, les choses ont semblé mal engagées pour lui, les députés du parti du président faisant eux-mêmes savoir que la loi martiale n'était pas forcément à leur goût, et l'opposition faisant assez rapidement savoir qu'ils comptaient réunir l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment elle s'appelle chez eux, donc l'Assemblée, pour voter une loi annulant la loi martiale. Le vote s'est passé dans des conditions relativement rocambolesques, pardon. Ça a commencé par des vidéos de députés tentant de se faufiler en passant par des fenêtres à l'intérieur du Parlement, qui à ce moment-là était donc, comme je vous l'ai dit, verrouillé par la police. Il y a quand même assez vite un peu plus de 150 députés, enfin on a su assez vite qu'un peu plus de 150 députés avaient réussi à rentrer. Et là du coup c'est un peu l'inverse, c'est les membres du Parlement... Donc, si j'ai bien compris, les membres du Parlement, là, enfin, ces membres-là, c'est pas les membres, les élus, mais plutôt les assistants parlementaires, sûrement les huissiers, là, les types qui chez nous sont en robe, enfin, en robe, en truc à pointe, là, comment on appelle ça,
en queue de pie.
En queue de pie, voilà, c'est ce genre de types-là, qui, du coup, de l'intérieur, se sont barricadés avec les, pour protéger la, l'Assemblée. Et, au même moment, une foule qui commençait à se réunir à l'intérieur. Tout ce petit monde, la foule de son côté et le personnel de l'Assemblée ont à leur tour du coup empêché l'armée de rentrer. Il y a des vidéos, notamment des forces spéciales en train de péter les fenêtres du Parlement pour finalement être repoussées un peu plus loin à une porte par des types en costume avec des extincteurs. Donc on saura que pour lutter contre les coups d'État fascistes, les extincteurs, apparemment, ça fonctionne. Et voilà, et tout ça pour nous amener à 170 députés réunis dans, à l'intérieur, composés donc du coup de députés, donc ils sont 300 à la base en tout, mais 170 députés d'opposition et députés du parti au pouvoir, qui votent à l'unanimité une loi d'annulation du pas du coup d'État mais du enfin si du coup d'État mais de la loi martiale pardon et du coup à la suite de ça il y a eu un petit moment de flottement, on n'a pas trop su au début comment l'armée allait réagir et le texte a finalement réussi à mettre un coup d'arrêt au coup d'État et l'armée a fini par rejoindre ses casernes, ce qui nous amène à ce matin où du coup pour eux, c'était pendant la nuit. Des foules ont commencé à se réunir, du coup, plutôt en direction du palais présidentiel, apparemment, en réclamant la destitution du président. En début d'après-midi, c'est l'opposition, donc les six partis d'opposition, qui ont fait savoir qu'ils déposeraient vendredi un texte pour faire destituer le dit président. Et quelques heures plus tard, en tout cas en France, alors je sais pas exactement parce que ça allait très vite et du coup les infos sont un peu bordéliques, mais en tout cas le parti présidentiel a fait une déclaration en disant que celui-ci devrait rendre des comptes. Donc on sait pas si ça veut dire qu'il va voter la destitution ou simplement qui voulait dire en général rendre des comptes, mais en tout cas c'est plutôt mal parti pour lui. Les syndicats ont fait à savoir que s'il n'y avait pas de destitution, ils risqueraient, enfin ils proposeraient l'appel à une grève reconductible jusqu'à sa destitution. À la suite de quoi le ministre de la Défense a présenté sa démission en faisant savoir qu'il présentait ses excuses pour la confusion apportée par le déploiement de l'armée à Séoul. Et du coup, bah voilà, c'est à peu près où on en est. A priori, c'est plutôt mal parti pour Yoon-Sun Yeol, qui risque d'être du coup démis de ses fonctions après-demain.
Voilà, c'est un peu brutal, pardon. On guette quand même les fils d'actualité pour savoir si cette fameuse motion de censure va être votée, mais pour l'instant, il semblerait que Michel Barnier ait décidé de faire un grand discours avant de, je sais pas, peut-être qu'il est payé à l'heure, du coup peut-être c'est 5 minutes en plus.
Et ouais, c'est parce qu'il a peur de rester moins longtemps que Attal, parce qu'il s'était foutu de sa gueule en arrivant. Il espère que s'il fait traîner encore un discours d'un mois, il arrive à égaler Gabriel Attal.
Sauf que nous, on va être obligé de faire traîner, parce qu'il ne reste que deux infos, on va être obligé de faire traîner ce canyon. Info.
Ouais, bah,
avec deux infos, on va parler.
Attendez, non, si, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on vous annonce en avant-première qu'ils vont voter la destitution et que du coup, il va, voilà, ça va se passer comme ça parce que je lis dans le futur.
Ah ouais, bah,
ce problème est résolu. Problème suivant.
Bon, eh bien, visiblement, bonne nouvelle hein, en Belgique, puisque les travailleurs et travailleuses du sexe belge seront protégés, ou même sont, j'ai pas bien compris à partir de quand ça s'applique, bref, par un véritable contrat de travail. La Belgique devient le premier pays au monde à leur accorder un vrai statut. En 2022, déjà, la Belgique avait décriminalisé, je vais y arriver, ce métier. Dorénavant, les TDS auront accès à l'assurance maladie, au chômage, à la retraite, au congé payé, à la maternité, bref, un peu comme chaque personne qui exerce un métier sous un contrat. Le texte de loi ne se contente pas de légaliser, il renforce la protection spécifique à ce métier en sacralisant le droit de refuser un client, le droit de refuser des actes sexuels spécifiques, le droit d'interrompre ou d'arrêter l'activité à tout moment et le droit d'imposer ses conditions à l'activité ou à l'acte sexuel et ce, quel que soit l'accord convenu avant avec le client ou l'employeur. C'est quand même pas mal.
Wow.
Ouais. En ce qui concerne les employeurs, eux, dans des conditions strictes, encadrent leur taf. Ils leur seront imposés, sous réserve de délivrance d'un agrément, de fournir une taille de chambre minimum, du matériel de protection, ainsi qu'un... Enfin, je dis ainsi, mais il y a quand même là une sacrée liste. Mais, et notamment, alors plutôt, un bouton d'urgence pour permettre au TDS de pouvoir appeler si elle rencontre un problème avec un client. De quoi, en tout cas, donner ici un peu d'espoir au TDS et à ceux qui militent pour la fin de la pénalisation et pour plus de considération, et de mettre en PLS les associations abolitionnistes de notre cher pays catholique. En Syrie.
Et du coup, oui, moi je me suis spécialisé dans les situations incompréhensibles. Je sais pas ce qui m'a pris ce soir. Du coup, hier après-midi, les rebelles de Hayat Tahrir al-Sham, donc qu'on va partir de maintenant appeler HTS, arrivaient aux portes de Hama, une ville d'un demi-million d'habitants au nord-ouest de la Syrie, un peu en dessous de d'Alep. Du coup, c'est plutôt une progression par rapport à la prise d'Alep il y a 2-3 jours. Alors, les combats qui ont commencé il y a une semaine ont déjà fait un peu plus de 70 000 déplacés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et l'ONU, et où on ne sait pas trop exactement, mais en tout cas les deux disent ça, donc on va dire les deux. Alors que du coup les HTS lançaient une offensive contre les zones contrôlées par le gouvernement. On apprenait dans le même temps que les forces soutenues par Erdogan en profitaient pour lancer elles aussi donc une offensive, mais alors elles dans deux directions, à la fois contre les zones contrôlées par le gouvernement, mais aussi contre les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes, donc qui sont l'appellation qui englobe les forces pro-kurde, je sais pas comment faut dire, du YPG, et du coup les différentes forces qu'ils ont agrégées autour d'eux dans le nord-est de la Syrie, du coup, oui ça y est je me trompe pas, dans le nord-est de la Syrie. Et du coup, bon, j'en reviens à ça, donc on sait notamment, donc la situation elle rend très confuse, j'ai passé un peu de temps à regarder ça hier et aujourd'hui. Ce qu'on sait c'est que par exemple la ville de Tal-Rifa, qui est une localité au nord d'Alep, est assiégé avec à l'intérieur ses 200 000 habitants, donc par les forces de, soutenues par Erdogan. Et de ce point de vue, la situation est très confuse. Dans un premier temps, on nous annonçait que les forces du HTS avaient lancé cette offensive plus ou moins avec l'appui, l'aide, on ne sait pas trop, de la Turquie. Et finalement, on apprend aujourd'hui que les forces du HTS se sont affrontées dans des coins avec les forces soutenues par Erdogan, notamment autour de la défense d'un corridor humanitaire que les combattants kurdes auraient mis en place entre les zones kurdes d'Alep et la zone autonome du nord-est de la Syrie. Tout ça est assez bordélique. On sait aussi que les Kurdes ont lancé une offensive, là pour l'occasion, au sud de leur propre zone de contrôle, ce qui donne un petit centre-est de la Syrie, on va dire. Voilà. Et que par ailleurs, l'aviation russe est venue en soutien au régime. Alors on ne peut pas vraiment dire en soutien au régime de Damas, parce que du coup, ils ont bombardé un hôpital universitaire au centre d'Alep.
C'est une manière de soutenir chez les Russes.
Ouais, voilà, c'est la manière dont les Russes ont de soutenir. Voilà, c'est avec les civils, histoire d'apprendre à tout le monde à se révolter. Mais a priori, quand même, ils sont bien emmerdés, parce que comme ils sont bien emmerdés en ce moment avec le front ukrainien qu'ils espèrent réussir à percer mais qu'ils n'arrivent pas à percer, ils ont plus trop de ressources pour soutenir Bachar al-Assad. Les Iraniens, c'est un peu pareil, mais eux, parce que plutôt c'est le bordel en interne voilà, en gros c'est le bordel, mais c'est ce que j'ai pu comprendre du bordel sur les derniers euh,
les derniers jours.
Alors c'est vrai que si autant on peut lire l'avenir sur le gouvernement Barnier, autant il est plus difficile de lire l'avenir sur
déjà j'ai passé une heure à essayer de comprendre qui étaient ces foutus HTS qui du coup sont des anciens de Daesh qui apparemment
veulent montrer un peu qu'ils sont quand même plus cool maintenant.
De ce que j'ai compris, c'est des anciens de Daesh qui l'ont mis à l'envers à Daesh. C'est des anciens de Daesh et de Al-Qaïda. Ils l'ont d'abord mis à l'envers à Al-Qaïda. Ils l'ont mis plus ou moins à l'envers aux deux. Et du coup, maintenant, ce qu'ils disent plus ou moins, c'est qu'ils ont compris que le djihad mondial, c'était pas top. Que finalement, leur ennemi principal, c'est Bachar al-Assad. Et que. Ils sont pour imposer la charia, mais en montrant que c'est une voie vertueuse. Donc ils ont l'air, en tout cas depuis quelques temps, de se comporter le mieux possible dans les zones qu'ils contrôlent. Et notamment, là, un article de, j'ai oublié de quel journal, qui parlait du fait que dans une des zones qu'ils contrôlent, les minorités chrétiennes vont pouvoir fêter Noël. En tout cas, ils les ont laissé installer des sapins et des décorations de Noël dans la rue. Alors, est-ce que c'est une vraie évolution idéologique, ce qui est possible, ou est-ce que c'est la même chose que les talibans qui, on le rappelle, quand ils avaient pris le pouvoir, avaient dit « vous inquiétez pas ». On a grave changé, on a grave compris qu'en fait on se trompait. Et tout ça pour finalement interdire aux femmes d'être à la télévision. Puis finalement se dire non mais en fait c'est la télévision qu'on va interdire. Et là si j'ai bien compris en être à interdire de posséder des téléphones portables. Voilà, on sait pas trop est-ce que c'est de la stratégie, est-ce que pas. Parce que aussi on peut tout à fait imaginer que ce soit une vraie évolution idéologique. Au vu de comment ça s'est mal passé avec Daesh, y compris avec les populations musulmanes de la région, les deux sont imaginables. Et là, en effet, ça va être difficile de savoir. Alors que Barnier, je peux vous dire, il est parti pour sauter, quoi. Il en était à dire non, mais vous vous rendez pas compte, Madame Le Pen, si vous votez avec le front de gauche, les communistes. Voilà. Donc, si quand c'est ça ta stratégie de défense, c'est sûr, ça va sauter. Alors que. Eux, là, on sait pas trop ce qu'ils veulent.
Et voilà. On a fini.
Mais vous voyez, on a été plus long que ce que vous disiez.
Trop d'agenda, tout à fait. Et
si, je peux vous dire que c'est la fête des ampoules électriques à Lyon. Et que du coup, si vous voulez aller voir un peu les jolies lumières, faut y aller tout de suite ce soir parce que il y a les animations, mais pas trop de monde dans les rues. Mais que par contre, autant de vous dire que ce week-end, faut éviter le centre-ville, les amis.
Tout à fait. Et bien sûr, on va se tenir au courant de la mobilisation autour de ce squat parce que on imagine qu'il y a eu ce rassemblement nacé aujourd'hui, mais qu'il y aura sûrement d'autres choses. Qui vont se passer. On vous laisse avec 20 minutes de bande continue et vraisemblablement vous retrouverez Idées Noires à 20h. D'ici là, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.